France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans la préface à votre long poème « Lettres s'élevant contre l'obscurantisme religieux », ode humaniste pour Tchibok pour Léa, paru en français en 2022, la traductrice Christiane Fiupou nous rappelle ou nous apprend que le nom du groupe terroriste Boko Haram se décompose ainsi. Boko est un mot Haoussa dérivé de l'anglais « book », livre donc, qui désigne plus généralement ici toute éducation à l'occidental, et Haram est un mot arabe désignant l'interdit. C'est avec cet éclairage sémantique que nous ouvrons aujourd'hui le Book Club. L'écrivain nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, est notre invité pour son dernier roman, paru aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire. En fin d'émission, nous retrouvons notre chronique du jour pour élargir toujours plus la grande conversation autour des livres. Et enfin, ce seront vos trouvailles qui nourriront le grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Wole Soyinka.
Thank you.
Soyez le bienvenu. Chronique des gens les plus heureux du monde, apparue aux éditions du Seuil, dans une double traduction dont je parlerai tout à l'heure. Et bonjour à vous, Michel Ostrowski.
Bonjour.
Merci beaucoup, vous allez assurer aujourd'hui l'interprétariat de l'anglais vers le français. Notre émission, Wole Soyinka, commence toujours par un questionnaire de lecture pour faire une sorte de portrait de nos invités EES en tant qu'ils sont d'abord des lecteurs et des lectrices. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire, Wole Soyinka?
Tout à fait distinctement, je me souviens du moment où j'ai appris à lire. C'était à un âge incroyablement jeune.
The only reason I believe it myself,
la seule raison pour laquelle j'y crois moi-même, c'est qu'il y a des témoignages à la fois par mes parents et par mon premier enseignant à l'école, mon premier maître, qui l'a confirmé, qui était le premier à découvrir par hasard que j'étais capable de lire. Mes parents n'y ont pas cru, et ils ont cru que je m'étais souvenu de certains mots, j'avais mémorisé des mots. Et j'ai dû le prouver devant des visiteurs, c'était avant l'âge de 3 ans.
Avant l'âge de 3 ans.
C'est ce que tout le monde a dit, et je m'en souviens suffisamment, parce que j'ai commencé à lire des phrases. J'étais un lecteur excessivement vorace. J'ai vu ce que faisait mon père, qui était enseignant, ce que d'autres faisaient, qui regardaient des livres, et puis qui en lisaient des choses de ce qui était imprimé dans ces objets. Et les journaux, les publicités, les tracts religieux que je trouvais jetés par-ci, par-là. Et je me souviens que j'avais un autre membre de la famille étendue chez nous à la maison. Je l'embêtais, son nom était Yosef. Jusqu'à ce qu'il m'enseigne à lire quelques mots et quelques phrases.
Est-ce que vous vous souvenez si c'était pour vous, Wole Soyinka, quelque chose qui relevait de l'amusement comme autre chose, voilà, toutes ces choses que font les enfants de 3 ans, ou est-ce qu'il y avait là un mystère dans le déchiffrement?
J'ai trouvé quelque chose de mystérieux dans cette communication entre les êtres humains vivants. Et un morceau de papier inerte. Oui, si c'est votre question, il y avait pour moi un sens de mystère. Et j'ai voulu le pénétrer parce que j'étais un enfant extrêmement curieux, m'a-t-on dit. Je pense l'avoir confirmé dans ma vie. Et même, j'écoutais aux portes beaucoup.
Est-ce que ça veut dire que, par conséquent, la lecture a précédé l'écriture pour vous, Wole Soyinka?
La lecture a définitivement précédé l'écriture. C'est après avoir suivi ma sœur à l'école. Elle était plus âgée que moi. et j'en avais marre de ses airs supérieurs quand elle allait à l'école. Et un jour, j'ai pris le premier bouquin qu'il y avait sur la table de mon père, j'ai dit « Je te suis à l'école ». À cette époque, je n'avais certainement pas écrit un mot. Et c'est en allant à l'école que je me souviens avoir appris à écrire.
Si on fait comme ça quelques pas dans votre enfance, Wole Soyinka, et qu'on en vient à des premières émotions de lecture, au fait de découvrir des histoires, c'est quoi les souvenirs les plus anciens de ce côté-là pour vous ?
I believe, first of all, the reading was accompanied by some
cartoons. Tout d'abord, la lecture était accompagnée par certains outils et par certaines caricatures. Caricatures des dessins qui s'appelait Lâcher Bicon. Elle était célèbre à l'époque. Et j'ai commencé à lire ces illustrés et à les mettre en rapport avec l'écriture. Et ma première impression, c'était que l'écriture était liée à l'illustration. C'est la première chose dont je me souviens.
Et un petit peu plus tard, quand vous avez eu affaire à des textes où il n'y avait pas de dessin, où il n'y avait pas de cartoon, où il fallait plonger comme ça et peut-être se faire les images dans sa tête, Wole Soyinka, c'était quel texte ?
Je pense qu'il y a eu une période, disons, moyenâgeuse entre la lecture et l'écriture. C'est un peu déroutant parce que, je l'ai dit, mon père était enseignant. En fait, il était maître d'école. Il avait une petite bibliothèque. Je le voyais sortir des livres de la bibliothèque et j'essayais de lire ses livres aussi, dans le même temps. Parce que moi, ça n'avait aucun sens pour moi, en fait, à l'époque. Et puis, il y a eu un saut mémoriel. J'en ai parlé à une époque extrêmement jeune, le début de la lecture. Puis après, il y a eu quelque chose de très cohésif. C'était « J'ai lu Médée » de Ripide, qui était dans la bibliothèque de mon père. Ça fait un grand écart, là, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je dis qu'il y a une lacune. Donc, il s'est passé quelque chose pendant cette période, mais je ne m'en souviens pas. Mais j'étais tellement occupé à faire d'autres choses que je ne me souviens pas très bien de ce
de la place
parcours
que prenaient les livres à ce
littéraire.
Moment-là. Et alors, Médée, Euripide, qu'est-ce que c'est comme choc pour vous, pour le lecteur que vous êtes à ce moment-là ?
Simultanément,
il faut que je m'explique là.
I grew up in a very dramatic society.
J'ai grandi dans une société, une communauté qui était très dans le drame. Nous étions dans une communauté d'acteurs. On jouait le rôle d'animaux de façon très très ancienne, selon une culture très ancienne. Il y avait aussi un théâtre ambulant qui s'appelait l'opéra du peuple, le folk opera, qui traitait de sujets très éclectiques, en partie de la Bible, par exemple. Il y avait aussi des traités politiques. C'est pendant la période coloniale. Hein. Donc j'ai eu cette expérience de regarder des pièces de théâtre sur des événements en cours. La lutte anticoloniale. Et dans le même temps, il y avait un théâtre politique qui impliquait Madame Ransom Kuti, ma tante, qui s'élevait contre le pouvoir des autocrates locaux qui collaboraient avec les puissances coloniales britanniques. J'avais ce sentiment aussi d'alphabétisation qui se mêlait à la réalité autour de nous à cette époque-là. Et ça m'a pris du temps de défaire tous ces nœuds et de reconnaître qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'était le théâtre autour de moi, qu'est-ce qu'était la réalité autour de moi. Mais j'ai assisté à ces pièces de théâtre en raison des différentes formes théâtrales au sein desquelles j'ai grandi. C'était un vrai théâtre autour de moi. Rien comme aujourd'hui, c'est un théâtre totalement différent.
Ce qui est très intéressant, c'est que depuis le temps que nous posons ces questions à nos invités autour de la lecture, vous êtes le premier, Wole Soyinka, à nous parler d'un choc de lecture qui serait une pièce de théâtre avec Médée et Euripide. Et en vous écoutant même raconter combien la découverte du texte dramaturgique se mêle avec, en fait, une sorte de lecture du monde présent, une lecture de l'actualité, y compris politique, ça nous renseigne, si on fait un énorme saut plus tard, sur la manière dont vous écrivez. Il y a toujours une sorte de... Le théâtre est toujours présent, d'une certaine manière, Wole Soyinka.
In fact, I didn't quite complete the answer I was given the other day, and that's related to this. We were talking about Medea, and in this theater.
Dans ce théâtre, parce que j'avais pas terminé mon explication. J'étais étonné.
At the rawness of emotions.
Dans le côté brut de l'émotion, ce sens aigu de ce qui se produisait autour de moi. Et je l'ai retrouvé dans cette pièce que j'ai lue, même si je ne pouvais pas maîtriser tout le langage. Le conflit, l'émotion, le sens de la trahison. Tout ça était écrit et c'était un reflet du théâtre que je regardais.
Which took in all kinds of themes,
qui, comedy, dans le folk love, opera, qui traitait de tous les thèmes, l'amour, la vie, la trahison, et puis dans la Bible aussi. Ben, ça touchait tout ça, ça touchait au colonialisme britannique qui était présent. Et ça touchait à tous les aspects de la vie humaine qui étaient présents. Je ne dirais pas que c'était un choc, mais j'étais surpris de voir cette corrélation à l'époque. C'est ce que je voulais dire.
Moi, je vais rebondir à ce que vous dites là, Wole Soyinka. Ce qui m'intéresse, c'est finalement la relation entre quelque chose de très présent, de très contemporain que vous voyez autour de vous, et un texte très très ancien, Médée, Euripide, l'idée que finalement les hommes se racontent des histoires depuis la nuit des temps. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui presque être relié avec cette idée que nous ne faisons que ça, nous raconter des histoires et les écrire? Doing is that we're telling us and
writing about stories to ourselves. Well, this was also a strong mythological community.
C'était une communauté mythologique.
It existed in the kind of ancestral.
Mais cette mythologie était présente. Ma tante en était très consciente et en traitait. Ça existait dans le folk opera. Et même dans les textes religieux, ils entraient dans ce monde mythologique. Les corrélations étaient tellement fortes, même avec les nouveaux mots écrits. Je vais vous donner un exemple. En tant qu'enfant, à l'école, à l'église, il y avait, vous savez, ces vitres colorées, il y avait ces vitraux avec des portraits de saints.
And some of the early missionaries.
Et
I remember one Reverend
les premiers
Townsend,
missionnaires, le révérend père Townsend,
Hendera.
Et dans ces vitraux, c'est comme si je regardais les ancêtres congelés des membres de ma communauté.
It was like they were animated Yoruba masquerades.
Mais vous savez, les masques. Les masques de mon héritage culturel, c'était les masques yoruba qui se promenaient dans les rues, et même la musique qui allait avec. C'était les moyens utilisés. Les Européens étaient très très malins pour rentrer dans les cœurs et dans la spiritualité des gens qu'ils colonisaient et les convertir à la chrétienté. Ils adoptaient souvent la musique de ma société, et ils l'ont fait ailleurs certainement aussi, et ils y ont attaché les paroles chrétiennes à cette musique. Donc il y avait ce flux et se mélangent dans les différents médias. Et moi, dans mon imagination d'enfant, avec les esprits des arbres, les dieux, les déesses, et les romans Yoruba, que j'ai traduits par la suite. C'est un monde d'esprit, d'arbres, de rochers, d'aventures, d'êtres à moitié humains qui transitaient entre les différentes phases de l'existence. Moi, j'ai vécu dans ce monde-là. Et ça se mélangeait à l'actualité. Et c'est normal que ça apparaisse dans mon écriture quand j'ai commencé à écrire.
Aujourd'hui, vous êtes quel genre de lecteur, Wole Soyinka?
Tout aussi vorace et éclectique que par le passé.
Au
Nigeria, il y a ce phénomène
of motor traffic hold-ups, in which sometimes a journey of 30 minutes can end up taking
dans la circulation.
Hours or five.
Donc, en une demi-heure, vous savez, il peut arriver des tas de choses. Et en fait, quand il y a des embouteillages, en fait, je parle des embouteillages, et ça peut prendre beaucoup de temps, et donc j'emporte ma bibliothèque dans mon portable. Et chaque fois qu'on s'arrête, ben, je lis quelque chose sur mon portable. La dernière chose que j'ai lue, c'était quelqu'un de jeune. Comment ça s'appelait? Mais je viens de le commencer, c'est pour ça que... C'est un jeune écrivain, Yoruba, avec un style extrêmement fascinant. Mais dans quelques voyages, j'aurais, je pense, fini de lire son œuvre. Mais je lis n'importe quoi, tout ce qui me tombe dans la main.
Et tout le temps, manifestement, et surtout dans les embouteillages. Wole Soyinka, vous avez à la fois parlé de musique, vous avez déjà prononcé ce mot de Kuti. Je vous propose qu'on écoute un titre qui est au milieu des années 70. Il est signé Fela Kuti, il s'appelle Zombie.
Zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, not gonna go unless you tell him to go,
zombie,
zombie, not gonna stop unless you tell him to stop,
zombie,
zombie, not gonna turn unless you tell him to turn,
zombie,
zombie, not gonna think unless you tell him to think,
zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie.
Unless you tell him to go,
zombie,
zombie, not go stop. Unless you tell him to stop,
zombie,
zombie, not go turn. Unless you tell him to turn,
zombie,
zombie, not go think. Unless you tell him to think,
zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie,
zombie, oh zombie.
Tell him to go straight. Na joro jara joro, no break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Tell him to go quench a joro jara joro. No break, no jam, no sense. A joro jara joro. Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and quench.
Joro jara joro.
Go and kill.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Put up all the verse.
Joro jara joro.
Go and die.
Joro jara joro.
Go and kill
without
all the buzz.
Joro
jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Open your hands, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, a button, double up, salute, open your hands, stand at ease, fall in, fall out,
pause!
Ha 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 ha! Attention, quick match, slow match, left turn, right turn, button, double.
trouble on me. Salute, open your hand, stand at ease. Fall in, fall out, fall down. Get ready, attention, quick match, slow match. Left on, right on, about on, double on. Salute, open your hand, stand at ease. Fall in, fall out, fall down. Get ready, hot.
Order! One more time, everybody.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Attention, quick match, slow match, left on, right on, a button, double on, salute, open your hand, stand at ease, fall in.
Zombie de Fela Kuti, c'est un morceau qui lui a coûté cher. C'est un morceau volé Soyinka où il compare de manière directement offensante les militaires à des zombies. Pourquoi est-ce que c'est une chanson qui parle bien de cette époque-là pour vous, volé Soyinka?
Fela, who was my cousin by the way.
Fela qui était mon cousin, en passant.
In this song and in
dans
his
cette
speech,
chanson,
he's repaying a debt
en
which
fait,
his family owed to our Yoruba
famille,
culture.
Une dette à la what culture Yoruba. C'est quoi cette dette? J'ai parlé de l'intelligence des évangélistes qui ont pris les musiques Yoruba et ces musiques des Yoruba. Ils les ont pris et ils y ont attaché les mots et les paroles chrétiennes. Et sa famille a été, s'est rendue coupable de larcin culturel.
Et
le Yoruba a été repris et rendu au Yoruba
et
rendu au Yoruba qui avait été par avant converti au christianisme par les évangélistes. Donc il s'agissait d'une dette de restitution culturelle. Et Fela et moi, nous avons interagi beaucoup de ce point de vue-là. Sa première apparition sur une scène européenne, c'était grâce à moi, je pense, dans un théâtre de Londres. À l'époque, il jouait un genre différent de musique. Il n'était pas très motivé politiquement à l'époque. Mais moi, je lisais mes poèmes dans ce théâtre londonien, ma première apparition sur une scène britannique, c'était ça. Donc nous avons collaboré, lui et moi, pour une soirée de portraits et puis une pièce. C'est ce qui me lie, moi, et Fela.
Il y a ce titre-là, Zombie, et tous les corps morts qui existent dans votre dernier roman. C'est l'heure d'en parler, Wole Soyinka. D'abord, il y a ce titre, le long titre de votre roman, dont on se méfie d'emblée. C'est vrai, c'est étrange. Quel serait ce pays qui abriterait les gens les plus heureux de la planète? Très vite, on le comprend. Ce texte, paru d'abord en anglais et qui est publié au Seuil dans une traduction française de Fabienne Canor et David Fauquemberg, fera de l'ironie, de la satire et de l'humour de fortes armes narratives en plein milieu de l'horreur, dans un Nigeria imaginaire, une société secrète composée de membres de l'élite politique et religieuse, fait du commerce d'organes humains à des fins rituelles assez mystérieuses. Empruntant ses forces, sa densité, à tous les genres dans lesquels vous écrivez depuis longtemps, vous empruntez aussi au récit biblique et ce roman peut se lire comme la parabole d'une société extrêmement corrompue, comme une description des aspirations humaines les plus viles, mais aussi comme une métaphore du corps abîmé, voire mourant, d'un pays en proie au fanatisme religieux et à la violence. Alors, la chronique du pays des gens les plus heureux du monde, apparue, je le répète, aux éditions du Seuil, il se trouve que en 2022, vous étiez au programme d'études des classes préparatoires scientifiques, ici, en France, Wole Soyinka. Aussi, je me demande ce que vous entretenez avec la langue française, qu'est-ce que ça vous fait que ce grand texte-là soit publié en français et de venir le présenter en ce moment à Paris.
Let me begin by stressing the fact that
tout d'abord souligner le fait que
many tributaries to what you might call the zombie theme.
Je dois payer beaucoup de tribut au thème des zombies
in the Chronicles.
dans ses chroniques.
And in any case,
et dans tous les cas, ici, ici, on parle du matériau physique anatomique qui est exploité pour des buts commerciaux en raison des notions superstitieuses les plus absurdes que, en sacrifiant d'autres êtres humains, vous deviendriez millionnaire ou que vous feriez de bonnes affaires. Même, on parle de Papa Doc Duvalier à Haïti à l'époque de cette terreur qui était très connue, enfin, dans les mythes par exemple, pour l'utilisation des zombies pour le contrôle des Haïtiens. De façon semblable, quand j'ai écrit The Invention, ma première pièce, c'est une coïncidence, dans cette pièce, quand il était sur scène au théâtre londonien, ça parlait de l'apartheid, du racisme, des couleurs de peau. C'était une pièce assez morbide aussi, hein, un peu dure. Un groupe de scientifiques qui tentaient de décrire les êtres humains simplement en les touchant ou tout simplement en faisant exploser leurs victimes avec leur corps éparpillé tout autour. Donc cet attachement aux membres humains, peut-être que ça fait partie de la famille, je ne sais pas. Mais quand on parle de la France et du français, de la langue française, on me rappelait que, grâce à Fela, j'ai quasiment été dévoré vivant à Paris, ici.
Bah, oui, décidément, oui. Alors là, vraiment, entrons dans le...
En raison de ce cousin. Hein, il m'en doit beaucoup, en fait. Ce qui s'est passé, il était emprisonné par un de ces dictateurs brutaux,
Buhari et Idi Agbon. And it was a time when Fela, of course, was when Zombie was written. Fela was
down
on anything
military. Où Zombie a été écrit, Fela était complètement sous la coupe des militaires. Il a été mis en prison, d'ailleurs. Et en France, à l'époque, il y avait un mouvement
Ne touche pas à mon pot.
Ne touche pas à mon pote.
Something like that. Ne touche pas à mon pote. Non.
Mon pote, mon ami, quoi. My friend. My friend.
Don't touch my pal.
That's one. Do not the translation.
Ouais. L'attention, c'est ça. Touche pas à mon pote.
Why was it spelled P-O-T?
C'était écrit P-O-T quelque chose, non?
E, avec un E à la fin. C'est mon vieux pote, mon ami.
Ah, okay. So now, Fela at the time had actually set up a political party.
Avait mis sur pied un parti politique.
Movement of the people.
Le mouvement du peuple. Le MOP.
And he wanted to become president.
Et il voulait devenir président.
And the French,
et les Français,
as usual, you know,
comme
with
d'habitude,
permanent, your permanent revolutionary mentality,
avec votre mentalité révolutionnaire permanente, ont soutenu sa cause.
And of course, campaign to
et on fait campagne pour le libérer qui a été mené à travers le monde. Moi, j'étais invité à un événement ici à Paris.
And I brought a letter with
et j'ai emporté une lettre avec des signatures internationales en sa faveur. Et Fela devait être sur scène dans un de ces lieux extrêmement vastes où il apparaissait. Et je devais lire cette lettre de sa part, sur scène. Et la sécurité, j'arrive à Paris, je vais à mon hôtel, on devait m'emmener vers ce lieu où devait se dérouler la soirée, je me suis assis, j'ai attendu, personne n'est venu.
Parce que
je
ne
suis pas venu du Nigeria pour repartir sans avoir lu la lettre. Donc, tout seul, je suis allé à ce parc, qui était quasiment en face de l'hôtel, et la sécurité était tellement féroce C'est comme c'est le cas dans ces événements pop avec des chiens. Et moi, j'ai pensé que j'avais été envoyé du Nigeria pour leur donner de la viande à dîner. Et ils étaient attachés à leur niche, mais ils essayaient de s'échapper pour me sauter dessus. Et moi, j'ai quasiment tourné le dos et je suis reparti parce que... Mais finalement, j'ai dit, bon, allez, les chiens devront être contrôlés. Je suis arrivé sur scène, j'ai lu le message, j'ai lu la lettre et je n'ai pas pu attendre plus longtemps pour revenir assez vite à mon hôtel et être en sécurité. Je voulais plus voir un chien de ma vie. C'était vraiment très dramatique. Hein.
C'était très dramatique et surtout c'était très contraire.
Voilà, c'est mon lien avec la France. N'avait pas commencé sur une note très conviviale.
Non, absolument.
Mais
et c'était très.
Je suis retourné en France à nombreuses reprises.
Très contraire à l'idéologie antiraciste qui était portée par ce mouvement que vous décriviez, Wole Soyinka. Mais d'ailleurs, pour revenir à votre roman, vous vous intéressez beaucoup aux dissonances entre les discours qui sont portés, les actions qui sont menées, entre les mots et ce que ça désigne dans la réalité. On va entrer en lisant un extrait du deuxième chapitre de votre livre, Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, et on va y déceler peut-être un peu d'ironie.
Nul n'ignorait plus que cette nation qu'on surnommait le géant de l'Afrique avait été désignée comme abritant les gens les plus heureux du monde. Ce qui n'était pas clair en revanche, c'est comment elle s'était vue attribuer une telle reconnaissance et comment, par consensus universel, elle avait pu la mériter. Il fallait aider les autres nations ambitionnant ce titre à sortir de la jalousie qui les étreignait, malaise qui entraînait de leur part des efforts voués à l'échec pour lui arracher sa couronne. La sagesse des anciens souffle qu'il est plus digne de reconnaître un champion dès lors qu'il est indiscutable et de marcher dans les pas de ce leader plutôt que de se lamenter en se tortillant de colère. Comme les Yoruba ont coutume de le sermonner, quand tu croises un éléphant, admets que tu as vu le seigneur de la forêt au lieu de prétendre avec désinvolture que quelque chose a vaguement traversé ton champ de vision. Peu de nations, par exemple, pouvaient se targuer de posséder un ministère du bonheur. Cette innovation émanait pourtant d'un des États les plus démunis de cette nation fédérale. Sa ministre pionnière, ou plutôt sa commissaire, était l'épouse de l'imaginatif gouverneur de cet État, tandis que d'autres membres de la famille et proches occupaient les divers postes créés par l'instauration de ce ministère unique en son genre. Mais pour ne pas qu'on s'imagine que cette première famille était seule responsable du prodige d'une telle décision unanime à l'échelle du monde entier, il convient de préciser qu'entre autres références à faire valoir, l'amour des titres et leur généreuse distribution dans le pays avaient joué leur rôle. Les gens avaient tendance à oublier que la célébration d'un seul de ces titres par le peuple aurait souvent suffi à financer les plans budgétaires annuels d'autres nations. Il y avait d'autres fondements, négligés, quoique monumentaux. Est-il besoin de citer, par exemple, la multiplication constante et exponentielle des lignées de chefs traditionnels d'un simple trait de plume tiré sur des histoires et des cultures entières par les gouverneurs des différentes provinces ?
Un extrait de votre texte dans sa traduction française depuis l'anglais du Nigeria par David Fauquembergh et Fabienne Canor. C'est Oriane Delacroix qui le lisait. C'est le début du chapitre 2. Wole Soyinka, on entend dans la description de cet état imaginaire, dans l'existence même d'un ministère du bonheur, dans différents titres comme ça qui sont donnés à des dirigeants, combien nous entrons dans un texte où il va falloir se méfier de vous, Wole Soyinka, où il va falloir faire avec votre ironie, votre sarcasme et votre façon de jouer avec vos lecteurs. Quel outil c'est pour vous, cet humour-là ?
Je
voudrais dire que j'aime bien rendre hommage là où il faut rendre hommage. Le ministère du bonheur était réel. En fait, Il a été établi dans un État, l'un des plus pauvres du Nigeria, une des provinces les plus pauvres du Nigeria. Et ce gouverneur, c'était pas sa femme, mais c'était sa belle-sœur ou un truc de ce genre-là. Et il l'a placé au titre de commissaire, c'est-à-dire, grosso modo, ministre de ce ministère. C'était une province où le gouverneur célébrait son anniversaire. Donc, il a fallu faire un grand gâteau. Je ne sais pas combien il y avait de gouverneurs il y avait dans cette région. Et donc, il y avait cette réception avec ce gâteau énorme pour célébrer son misérable anniversaire. Il a fait faire des statues, au moins une, dédiées à un chef d'État qui était probablement le plus corrompu du continent. Lorsque je dois rendre hommage là où il faut,
le Gallup poll, qui listait Nigeria.
Quand il y a eu ce recensement des pays les plus pauvres et les plus corrompus par Gallup, et donc on parlait d'un pays très pauvre et très corrompu. Je savais qu'il ne s'agissait pas du Niger, parce que je sais que ce n'est pas un endroit très heureux, mais est-ce que c'est le Nigeria? Donc quels étaient les critères utilisés dans cette recherche de Gallup? Peut-être que ma compréhension du mot bonheur n'était pas bonne. Et qu'est-ce qui a mené ces gens de l'Institut Gallup qui avaient placé le Nigeria parmi le pays le plus heureux? Eh bien, c'était ça, la création des ministères du bonheur. Notre amour des titres, qui exige la célébration des titres, et le nombre de fêtes, de vacances pour une raison ou pour une autre, avec des jours ajoutés, si les jours de fête tombaient en fin de semaine, par exemple. Et le plus important de tout, et de façon tout à fait sérieuse, c'est que ces enquêtes, c'était comment est-ce que des pays pouvaient survivre en dépit des facteurs négatifs connus du monde entier, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire les dictatures, c'est-à-dire le fondamentalisme religieux qui dévorait le cœur de la nation. Est-ce que ces gens-là de Gallup étaient ignorants? Mais est-ce qu'ils ne savaient pas que 300 élèves des écoles avaient été kidnappés, emmenés en captivité, et que la nation était incapable d'y faire face? Est-ce qu'ils avaient voyagé dans ce pays? Est-ce qu'ils avaient vu l'érosion qui mangeait les zones urbaines? La fréquence d'effondrement des immeubles. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, alors, ces gens qui ont mené cette enquête? Ou est-ce que c'était véritablement simplement l'admiration du fait que ce peuple a pu survivre en dépit de tous ces effondrements? Et donc, est-ce qu'ils étaient impressionnés par le fait que des gens était absolument en mouvement perpétuel, achetait, vendait, et qu'il y ait des théâtres de rue, et qu'il y ait des universités, qu'il y ait des soirées. Il y a aussi une culture contemporaine qui se développait. Donc peut-être qu'ils ont ajouté tout cela, et ils se sont dit, eh ben voilà, on fait un équilibre. Les gens sont capables de créer leur propre existence. Dans cette horreur, eh bien, c'est un signe de bonheur. Je ne sais pas quel est le dictionnaire utilisé par les gens de Gallup, mais ce n'est pas le même que le mien.
Et alors, c'est de cette ironie-là, de cette ironie cruelle, finalement, de la grande différence entre ce qui était défendu par cet institut de sondage ou d'études et ce que vous observiez, vous, de la réalité de votre pays, c'est-à-dire qui est quand même aussi décrite par le menu dans votre roman, des corps malmenés, violentés, de cette grande ironie entre les mots utilisés et la réalité, qu'est né ce roman, Wallace Soyinka? Est-ce que c'est de tout ça qu'est né ce roman?
Yes, indeed.
Oui, absolument.
It's from that morass of contradictions.
C'est de cet ensemble de contradictions.
Walking between negatives and positives.
On se promène toujours entre les aspects négatifs et positifs. Et j'espère que ce roman montre qu'il y a des gens moraux, des gens créatifs, qui combattent les aspects négatifs de la société. Certains ont une position disant que c'est pas un pays du tout, c'est un lieu créé par les forces coloniales, un comptoir, comme quelque chose de pour le contrôle des ressources, pour le propre développement du colonisateur. Et nous savons que le matériau humain est énorme. Voyager n'importe où, dans n'importe quel domaine, où il y a de la finance, de l'ingénierie, de la science médicale.
Et
je dis que moi, je suis un spationaute. Je sais ce qui se passe dans l'espace. Et je sais qu'il y a des Nigériens qui travaillent dans l'espace. Parce que je vais toujours voir les pas de lancement avant le lancement des fusées. Mais des Nigérians partout, ce sont vraiment des gens brillants. Et donc, comment est-ce que finalement on peut faire face à ce type de contradiction, de contraste? Il faut développer tout simplement un sens de l'humour, d'où on peut extraire la satire qui vous laisse ce sentiment et cette capacité d'être équilibré. Mais bon, pour l'instant, il y a du matériau pour une satire éternelle. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui.
Et ça ne vous empêche pas, Wallace Soyinka, dans des pages, d'aller très profondément dans l'horreur, de décrire. Vous parliez au tout début de notre entretien, votre rapport au corps, à l'anatomie, aux membres découpés. Il y a des pages qui sont quasiment insoutenables, avec des corps explosés, des chairs maltraitées, violentées. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous aussi que la littérature décrive ce genre de violence ? Même si on dit beaucoup que c'est un Nigeria imaginaire et qu'il y a aussi une dimension tout à fait magique à ce texte-là. Pourquoi rentrer dans des descriptions aussi dures?
Well, the reason for concentrating so much on that.
La raison pour se concentrer tellement sur ces points-là, c'est qu'il y a de la complaisance.
The very act of a few.
L'acte de certains visant à créer une meilleure société trompe souvent la majorité à penser, les induit à penser que tout va bien. Oui, ça trompe ceux au pouvoir. Ils sont capables de citer certaines statistiques, de désigner certaines structures modernes, oui, bien sûr. Il y a des progrès infrastructurels en route. Il y a des nouvelles lignes de chemin de fer qui sont créées pour éviter les lieux où il y a trop de gens qui doivent voyager pour pouvoir se sortir des embouteillages. Il y a des cartels qui sont démantelés, et ça, on peut s'en vanter, bien sûr, comme des réussites phares. Mais quand vous comparez ce à quoi il était possible d'arriver 60 ans après l'indépendance, c'est vraiment horrible, c'est pitoyable. Pitoyable. C'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai écrit ce roman, j'ai J'ai travaillé de très près avec mon éditeur nigérian, qui était le premier à publier. Je l'ai vraiment embêté. J'étais sur son dos sans arrêt, parce que j'écrivais les chapitres les uns après les autres, et je réécrivais certains chapitres. Et dans le même temps, avant de commencer, je m'étais engagé à ce que ce livre sorte pour le 60e anniversaire de l'indépendance du Nigeria. Et c'était le 60e anniversaire du Nigeria. C'était pas simplement quelques journées de prières, de parades militaires, quelques chants ici et là. Non. Le gouvernement a annoncé une année de célébration, une année complète de célébration, de commémoration, pour le 60e anniversaire de l'État. Et je dis à mon éditeur, faites-moi plaisir, si vous le faites sortir à temps, je n'irai jamais vers un autre éditeur. Alors faites ça. Il faut absolument donner ça pour le 60e anniversaire de l'État. Il faut que ça sorte pour le 60e.
C'était pour troubler la fête, Willy Soyinka?
Et j'ai réussi. It was to ruin
the commemoration. Yes, and in fact.
Oui.
And I can tell you this, that
et je peux vous dire
the celebrations did not last.
La célébration n'ont pas duré. Tout le plan a été totalement abandonné.
The mandatory day of
après les jours obligatoires de parade, etc., plus personne n'a jamais entendu parler de cette célébration.
Mais parce que votre livre refusait d'aller dans le sens de, justement, une célébration uniquement positive de ce pays ? Uniquement à cause de votre livre, Wole Soyinka, on a arrêté la fête ?
Je dirais pas que c'est seulement à cause de mon livre, mais je peux vous garantir, je sais que ça a joué un rôle dans l'annulation. Enfin, ça devait être lancé publiquement, et on en a parlé publiquement, et le gouvernement, très tranquillement, a reculé et a arrêté avec ce concept d'une célébration d'une année entière. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement satirisé dans mon livre.
Est-ce que ça vous, et ce sera la fin de notre conversation, Wole Soyinka, est-ce que ça vous conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, dans un monde où les choses sont très dématérialisées, où la plupart des gens vivent surtout en lisant des choses sur Internet, un livre, même un gros livre comme le vous, Wole Soyinka, a un poids, y compris très politiquement parlant ?
I believe it's had some effect. Let me give you an example.
Je suis persuadé que ça a eu un effet. Je vous donne un exemple. Le ministre du bonheur, quand on a lancé ce livre, sorti ce livre à Abuja, la capitale du Nigeria, il était dans le public, ce ministre. Et il était parmi ceux qui ont posé des questions dans le public. Je l'ai regardé. J'ai répondu à sa question du mieux que j'ai pu. Et après, je l'ai vu venir vers moi sur scène. Moi, j'ai reculé d'un ou deux pas, j'étais prêt à défendre ma vie.
But he
et
came
puis,
up, you know,
il est monté sur scène.
And I said, wait,
j'ai dit, attendez, j'espère que vous vous rendez compte que vous êtes ici pour le lancement du livre. Que vous êtes dans le livre, Et oui, je sais que je suis dans le livre, mais je veux quand même poser ma question. Et on a eu une discussion amicale. Et je peux vous dire que lorsque ça a été publié, les premiers acquéreurs, ceux qui cherchaient le livre pour l'acheter, c'était les politiciens.
Bon. Wole Soyinka, ce livre s'appelle Chronique du pays des gens les plus heureux du monde. Il est traduit de l'anglais du Nigeria par David Faucombert et Fabienne Canor aux éditions du Seuil en cette rentrée littéraire. Un grand merci à vous d'avoir été l'invité du Book Club.
It's a pleasure and please thank the translators for me. They did a good job.
Un plaisir pour moi et s'il vous plaît, remerciez les traducteurs, ils ont fait du bon boulot.
Vous venez de le faire à l'antenne. Merci à vous, Michel Zotowski, d'avoir assuré pour nous l'interprétariat.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et c'est un book club du mardi. Et le mardi, nous avons rendez-vous avec vous, Lou Quevauvillier. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez de littérature scientifique.
Oui, je vous présente une application qui s'appelle Litote. C'est Aurore Turbio, une jeune chercheuse en littérature et une codeuse autodidacte qui l'a imaginée. Au début, elle s'est servie de Litote pour l'aider à rédiger sa thèse, mais maintenant elle l'utilise pour écrire ses articles et tous les travaux scientifiques qu'elle produit dans le cadre de son travail universitaire. Si je vous parle de Litote, c'est à la fois pour vous expliquer le fonctionnement de cette application, mais c'est aussi pour vous donner un exemple concret de ce qu'on appelle les humanités numériques, dont on entend de plus en plus parler sans forcément savoir à quoi ça correspond. En fait, quand on parle d'humanité numérique, on parle d'une rencontre qui est orchestrée entre les sciences humaines et sociales, dont fait partie la littérature, et l'informatique.
C'est votre chronique, en fait.
Ces rencontres permettent de créer des nouveaux savoirs et des nouveaux savoir-faire, et souvent, les recherches dans ce domaine prennent la forme de bricolage individuel de l'ordre du do-it-yourself, ce qui est tout à fait le cas ici avec Litote.
Alors justement, Litote, qu'est-ce que c'est et comment ça marche?
Alors au départ, Litote a été imaginé par Aurore Turbio pour organiser son immense corpus de thèses, qui l'ensemble des textes poétiques et théoriques sur lesquels elle s'appuyait pour formuler et argumenter des hypothèses. Dans le cas de cette chercheuse qui travaillait sur la littérature féministe des années 70 en France et au Québec, il s'agissait de trouver un moyen pour réussir à stocker, référencer et manipuler plus de 300 ouvrages. Et après avoir tenté d'inventorier ces ouvrages dans des carnets, un stylo à la main, puis d'avoir essayé d'utiliser un tableur classique, Aurore Turbio a fini par imaginer une base de données avec tous les critères dont elle aurait besoin, et cela grâce à ses compétences de codeuse. Cette base de données est composée de deux éléments importants. D'une part, tous les renseignements bibliographiques basiques d'un ouvrage, le nom de l'autrice ou de l'auteur, la date de publication, l'édition, le résumé. Et d'autre part, un système d'étiquettes qu'on appelle des tags pour qualifier au fur et à mesure les extraits de texte qu'elle compilait. Parmi les tags présents dans sa base de données, il y a amour, sororité ou maternité, par exemple.
Et qu'est-ce que ça permet de faire justement ces tags? Comment est-ce que ça peut aider dans la rédaction d'un papier?
Le plus simple pour expliquer, c'est peut-être de simuler un travail à rendre. On sait par exemple que beaucoup d'autrices féministes des années 70 ont fait référence aux contes de fées dans leurs textes. Alors imaginons qu'Aurore Turbio doit faire une étude sur le sujet. Et bien grâce au système de tags, tous les textes qu'elle aura répertoriés sous l'étiquette contes de fées il y a plusieurs mois, plusieurs années, apparaîtront en un clic, et même ceux que la chercheuse aurait pu oublier, ce qui arrive quand on lit beaucoup et qu'on travaille dans un temps long. Cette base de données pourra bien sûr s'étoffer au fil de la carrière universitaire de la chercheuse pour engranger de plus en plus de références précises sur lesquelles s'appuyer.
Mais en effet, génial. Du coup, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'Aurore Turbio n'a pas juste gardé ce programme informatique pour elle? Pourquoi elle le partage?
D'abord parce qu'elle s'est dit que si ça lui avait été utile, alors ce serait probablement le cas pour d'autres. Et il se trouve qu'effectivement, Litote a déjà été utilisée dans d'autres cadres pour organiser le corpus d'une autre thèse, mais aussi pour préparer un livre théorique écrit à plusieurs mains. Et puis parce qu'Aurore Turbio fait partie de cette génération de chercheurs et de chercheuses qui défendent l'idée d'une science ouverte, d'une science accessible à tous et toutes, et pour qui le travail de diffusion et de vulgarisation fait partie du devoir des chercheurs et des chercheuses. D'ailleurs, si j'ai su qu'Aurore Turbio avait fabriqué Litote, c'est bien parce qu'elle a diffusé sur les réseaux sociaux et sur son carnet de recherche en ligne l'histoire de l'application, son mode d'emploi et les questions que cela suscitait.
Et parmi ces questions, on imagine tout de suite qu'il y a des grosses questions problématiques autour des droits d'auteur.
C'est la question la plus délicate, effectivement, parce que quand la chercheuse s'est rapprochée des services juridiques de son université il y a quelques mois, c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à un travail comme celui-là. Ensemble, ils ont choisi d'héberger Litote sur Humanum, qui est un serveur dédié aux humanités numériques et qui a été mis en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce dépôt n'exclut ni le risque de pillage des œuvres citées, ni celui du travail de thèse qu'Aurore Turbio a effectué, mais c'est un risque qu'elle a choisi de prendre pour partager sa banque de textes, parfois des textes extrêmement rares, et c'est aujourd'hui près de 1300 ressources à consulter que la chercheuse nous laisse à disposition.
C'est fort généreux de sa part. Merci beaucoup, Lou. Merci. On peut réécouter Lecture numérique sur franceculture.fr. C'est bientôt la fin de votre book club et c'est l'heure de jouer au grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe, vous êtes en train de lire un livre, vous rencontrez l'évocation d'un air musical dans un paragraphe, vous nous l'envoyez via l'Instagram du book club culture ou alors via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, l'auditrice qui joue s'appelle Frédéric. Elle nous envoie un extrait d'un roman qui s'appelle Héroïka de Pierre Ducrozet, paru en 2015 aux éditions Grasset et repris dans la collection Babel. Pierre Ducrozet signe une fiction biographique de Jean-Michel Basquiat. Il s'est assis devant la mer. Il est calme.
C'est la première fois depuis des mois qu'il se sent ainsi. Hawaï lui fait ça. Il lampe tranquillement une deuxième bouteille de rhum. La première est allongée sur le sable. Ici, il respire enfin. Il va arrêter l'art et toutes ces conneries. Ce monde-là est vraiment pourri jusqu'à l'os. Ce ne sont que des requins, trahisons, fric, fric, fric. Il va enfin faire ce dont il avait toujours rêvé. Musicien, écrivain. En réécoutant pour la millième fois A Love Supreme de John Coltrane hier soir dans sa cabane, il a décidé qu'il voulait faire ça à présent. Il s'est acheté avant de partir un saxophone ténor dans lequel il souffle l'après-midi. Il fera des films aussi, des trucs étranges avec des mouvements heurtés de caméra et des personnages aux longues ombres portées à terre. Là où il s'est aventuré, ce n'était que faux-semblant et imbécile. Il a fait ce qu'il a pu. C'est fini à présent. Il voit clair aujourd'hui. Il n'y a rien autour de lui que le vent dans les palmes. Au son aujourd'hui, c'était Nicolas Bonnet et Élise Leu, à la réalisation Lise Combe et Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Léa Weiss-Grus, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast du Book Club via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.